Riviera ferraille.
Bonsoir et bienvenue dans les best-of du Bureau des Mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles et nous sommes actuellement en vacances. Mais nous avons décidé de vous accompagner durant l'été en vous proposant le meilleur des histoires de cette première saison du Bureau des Mystères.
Et cette semaine, nous allons vous présenter les choses à ne surtout pas faire cet été. Et on vous propose de commencer tout de suite avec notre première archive qui montre bien que profiter de son temps libre pour étudier n'est pas toujours une bonne idée.
Alors maintenant, il va s'agir de voyager un petit peu, puisque pour cette histoire, je vais vous emmener en Corée du Sud, où on ne rigole pas avec l'éducation. Parce que les étudiants sont très assidus en cours, visiblement, en tout cas c'est ce que j'ai lu, et passent beaucoup de temps à la bibliothèque. Ils travaillent très dur, et d'ailleurs c'est devenu un problème de santé publique en Corée, puisque étudiants et adolescents manquent de sommeil et des fois s'écroulent de fatigue en cours. Ce qui est bête quand on va être assidu à un cours quand même. Si bien que depuis quelques années, pour endiguer le problème, les directions des écoles ont pris le parti de fermer les salles de cours et les bibliothèques pour que les étudiants n'y restent pas toute la nuit. Ils ferment normalement aux alentours de 22h. Ce qui est l'inverse en France, c'est-à-dire qu'on vient d'accepter l'ouverture des bibliothèques jusqu'à 22h. Là. Et donc Sun-hee est une jeune étudiante. Et un jour, alors qu'elle est en période d'examen, elle décide de passer la soirée et la nuit avec ses camarades dans une bibliothèque pour réviser. La bibliothèque était bondée quand le groupe est arrivé, mais elle se vide peu à peu. Et à 22h, il ne reste plus que le groupe d'amis de Sun-hee. L'étudiante va aux toilettes, alors que 22h vient, grosso modo, à peine de sonner. Elle longe un couloir, alors entre la bibliothèque et les toilettes, il y a un couloir qui est extrêmement mal éclairé, qui est très sombre, à cause de quelques néons défectueux. Et donc dans la bibliothèque, ses amis continuent à travailler, mais assez rapidement ils sont attirés par d'étranges bruits près des grandes fenêtres de la bibliothèque. Il faut s'imaginer une grande bibliothèque avec du bois, des étagères en bois, des grandes fenêtres à l'ancienne. Et donc, à une de ces grandes fenêtres, il y a un bruit, il y a un tambourinement qui se fait entendre. Ils s'approchent tous, et ils regardent par la fenêtre, et ce qu'ils vont voir va les effrayer. Il y a une dame, une grande dame, vêtue en blanc, mais avec le teint, la peau extrêmement pâle, des bras rachitiques, et surtout, deux grands trous noirs à la place des yeux, qui les regardait fixement. Elle a pas d'yeux, elle est vide à cet endroit-là. Mais c'est tellement noir que c'est impossible de voir ce qu'il y a à la place. La femme, d'un geste, elle colle son visage sans yeux contre la vitre et elle commence à hurler. Alors les étudiants s'éloignent de la fenêtre, hein, y a plus que le groupe d'amis de Sun-hee. Ils s'éloignent de la fenêtre et ils savent pas quoi faire. Mais avant même qu'ils prennent une décision, la femme, ou plutôt ce qui ressemble à une femme, casse la vitre et rentre dans la bibliothèque. Sun-hee, de son côté, est toujours aux toilettes. Elle se lave les mains et elle ne sait rien de ce qui se passe dans la salle à côté. Elle n'entend pas ce qui pourrait potentiellement être des cris, des hurlements, des coups. Mais soudain, alors qu'elle est en train de se sécher les mains, les WC sont plongés dans le noir. Sun-hee connaît à peu près bien les toilettes de cette bibliothèque, donc elle arrive à se repérer, elle met ses mains devant et elle arrive à peu près à se repérer. Elle galère un petit peu, elle tâte plusieurs fois l'interrupteur pour voir si en éteignant, en rallumant, il n'y a pas quelque chose qui se passe, mais non, rien n'y fait. Elle est dans le noir. Elle parvient à trouver la poignée de la porte, elle ouvre la porte, et elle se retrouve à nouveau dans ce grand couloir sombre qui sépare les toilettes de la bibliothèque, sauf que là, le grand couloir un peu sombre est carrément tout noir. Elle ne voit rien du tout. Cependant, le couloir est tout droit, et elle continue à marcher, et elle se retrouve à peu près au milieu de la bibliothèque, quand tout d'un coup, les lumières reviennent. Donc elle se rend compte qu'elle est au milieu de la bibliothèque, et là, ce qu'elle voit la terrifie. Tous ses amis sont morts. Les corps de ses amis sont dans des positions impossibles. Les membres sont tordus, à l'envers. Sur les visages de ses amis, il y a des grimaces d'horreur. Ils ont le visage figé. Certains étaient à plusieurs mètres au-dessus du sol, sur les étagères en bois, à la place des livres. Ils ont les corps tordus. Et là, Sun Yi, elle est tellement choquée qu'elle n'arrive même pas à crier. La bibliothèque est plongée dans un silence profond quand derrière elle, elle entend un bruit de craquement. Par réflexe, elle ne sait pas pourquoi elle fait ça, mais par réflexe, elle s'allonge par terre, entre les corps de ses amis, et elle fait la morte. Elle ouvre un œil, et là elle voit la femme. La même femme que ses amis ont vue par la fenêtre quelques minutes plus tôt. Et la femme, elle rentre à nouveau dans la salle de la bibliothèque avec sa robe blanche, son corps très maigre et les trous à la place des yeux. Et elle se déplace avec un râle comme ça. Par curiosité, Sun Yi, elle continue à la regarder un petit peu, à avoir un œil entrouvert. Le monstre se retourne et Sun Yi ferme les yeux avant d'avoir pu voir quoi que ce soit. Et elle reste à nouveau la plus immobile possible. Le monstre continue son chemin et commence à dire à voix basse en s'approchant des corps. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et elle inspecte chacun des corps présents dans la pièce. Sun Yi garde les yeux fermés, mais elle veut quand même voir si le monstre s'approche d'elle. Elle entend de temps en temps 1, 2, 1, 2. Mais malheureusement pour elle, le monstre se rapproche inexorablement. En examinant les corps, corps après corps, il arrive derrière l'étudiante, qui se met du coup à respirer le plus faiblement possible. Et là, Sun Yi, elle va attendre de longues minutes. Elle prie, elle se dit, peut-être que si j'attends suffisamment longtemps, le monstre va partir. Donc je vais respirer doucement le plus longtemps possible, je vais fermer les yeux le plus longtemps possible. Et à l'intérieur, elle prie, elle se dit, pourvu que le monstre s'en aille. La bibliothèque est complètement silencieuse, il n'y a pas un bruit, même dehors, il n'y a pas un bruit. Au bout de très très longues minutes, elle n'entend plus rien. Elle n'entend plus rien depuis un moment. Elle décide, elle a la tête légèrement penchée, elle décide d'ouvrir lentement un œil. Mais à peine elle ouvre l'œil qu'elle entend près de son oreille 1, 2, 1, 2.
On n'est pas bien.
Et voilà, vous avez à nouveau pu flipper avec cette bibliothèque, avec ce monstre, avec ce monstre squelettique, fantomatique, qui a fait peur à beaucoup de monde, je crois, puisque oui. Dans les retours qu'on a eus, apparemment, c'était peut-être l'histoire, la creepypasta en tout cas, qui avait fait le plus flipper nos auditeurs.
Moi, personnellement, c'est celle qui m'avait vraiment fait le plus peur. Je l'avais dit quand on avait rencontré des abonnés du Bureau ouais. du Mystère. Ils m'avaient posé la question, qu'est-ce qui t'a fait le plus flipper? C'était vraiment ça. Je crois que c'est vraiment ce moment où tu fais 1, 2, 1, 2. Ça m'avait terrifié.
Moi aussi, en le faisant, j'avais peur.
C'était vraiment la pire. Bon, allez, on va passer maintenant au deuxième truc à ne pas faire cet été. Cet été, vous serez peut-être tenté de faire un peu de bricolage ou quelques travaux dans votre maison. Eh bien, la prochaine histoire parle un peu de ça, avec quelques esprits en prime. La mystérieuse maison Winchester. En Californie, il existe une maison immense avec une architecture insensée qui a des escaliers qui mènent nulle part, des portes qui s'ouvrent dans le vide, et cette maison-là cache une histoire effrayante de malédiction. Alors mon cher Charles, pour ce dossier-là, je t'amène en Californie, à San José précisément, et encore plus précisément au 525 South Winchester Boulevard.
Ouais, je vois très bien jusque-là.
Eh bien écoute, c'est très bien parce que cette histoire ne commence pas exactement à cet endroit-là.
D'accord.
Elle commence en fait à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, plusieurs centaines de kilomètres de San José, hein, pas d'ici la France, sinon ce serait quand même assez étonnant. En fait, l'histoire commence le 12 juillet 1866 quand Sarah Winchester, l'épouse de William Wirt Winchester, qui dirige à ce moment-là la fameuse société Winchester, celle qui fabrique la célèbre carabine.
Ah Winchester. Oui, c'est ce que j'allais te demander, c'est le Winchester, comme le bar le Winchester qui a une arme Winchester dans Shaun of the Dead.
Exactement, c'est en fait le fils de l'inventeur de la carabine Winchester. Et donc ce monsieur est marié avec Sarah Winchester et ensemble ils ont une fille qui s'appelle Annie, qui naît en juillet 1866, qui malheureusement meurt quelques semaines plus tard d'une maladie infantile. C'est à ce moment-là que Sarah Winchester tombe dans une profonde dépression, ce qui est assez normal, on le comprend, et le couple n'a pas eu d'autres enfants par la suite. Et Sarah Winchester doit affronter un autre drame en 1881 quand son mari meurt de la tuberculose. Donc en 1881, Sarah Winchester hérite de 20,5 millions de dollars de l'époque, donc ça fait beaucoup d'argent. En fait, elle touchait 1000 dollars par jour, ce qui est aujourd'hui à peu près l'équivalent de 23 000 dollars par jour.
20... What? Ah oui, non, mais là... De... Ok, waouh, Penelope Fian à côté, c'est rien du tout, déjà.
Ouais, donc là, la personne a 20,5 millions de dollars de l'époque, donc ce qui est énormément d'argent, donc tu peux multiplier voilà, par 20, donc 50% de la compagnie Winchester, ce qui lui apporte cette somme de 23 000 dollars par jour. Et donc tout cet argent-là, elle va l'utiliser pour acheter une maison loin de là, à San José, en Californie. Elle rachète une maison. Et si elle rachète cette maison, c'est pour une raison bien étrange. En fait, toujours gagnée par la dépression, Sarah Winchester a l'impression qu'il y a une malédiction qui s'est abattue sur sa famille. Alors sur les conseils d'une amie, elle va à Boston rencontrer une médium, et cette médium va lui faire de surprenantes révélations. Elle va lui dire qu'elle est entrée en contact avec son mari, donc William Wirt Winchester, et qu'elle doit quitter la ville où elle habite jusqu'ici, donc jusqu'ici elle habitait à New Haven, et qu'elle doit partir à l'ouest du pays, elle doit partir en Californie, et c'est là-bas qu'elle doit construire une maison pour accueillir les esprits de tous ceux qui sont morts à cause de la carabine Winchester.
C'est la médium qui lui dit d'aller vivre en Californie.
Qui lui dit de partir loin, parce qu'il faut qu'elle d'abord essaye d'échapper aux esprits, et dans un deuxième temps de construire une maison qui ait deux fonctions, d'abord celle d'accueillir les esprits des personnes mortes par la carabine Winchester, et aussi de leur échapper, puisque si elle dort dans une chambre différente chaque soir, ce qu'elle fera par la suite, c'est plus compliqué pour les esprits de la trouver, et de demander la vengeance. Donc
ouais, ça ressemble assez étonnamment à une partie de cache-cache en fait.
Un petit peu, mais sauf que c'est ce qui devient très bizarre, c'est que Sarah Winchester prend juste note de construire la maison, et visiblement la présence des esprits ne la dérange pas tant que ça, et elle prend très à cœur de tous les accueillir dans cette nouvelle maison qu'elle achète en 1884 à Santa Clara. Donc Santa Clara, c'est juste à côté de San José, et elle a une ferme d'abord qui fait seulement 8 chambres.
Seulement 8 chambres.
L'époque, quand on est riche, c'est pas une très très grande maison non plus. Il faut accueillir les servants, il faut accueillir du monde. Donc forcément, c'est pas hyper grand à l'époque, sauf que ça va tout de suite devenir extrêmement démesuré. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la maison fait 2 hectares. C'est immense.
Wow.
Elle achète cette maison, elle dépense l'équivalent de 70 millions de dollars d'aujourd'hui pour la rénover dans un premier temps. Et le travail est continu, parce qu'en fait, ce que lui a dit la médium, c'est que les esprits ne seraient pas apaisés tant que la maison ne serait pas terminée, et il fallait qu'elle soit constamment en construction. C'est la raison pour laquelle, pendant 38 ans, le travail a été continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.
Elle vivait dans la maison
en construction. En constante construction.
Oh, wow.
Et évidemment, pour construire une maison aussi immense, on pourrait se dire qu'il aurait fallu embaucher plusieurs architectes pour que tout ça ait un sens. Eh bien non. En fait, Sarah, la nuit, se retirait dans un salon privé. C'était la seule pièce où seulement elle avait l'accès. Les servants n'avaient pas le droit de rentrer dedans. Merde. Les amis de la famille ne pouvaient pas rentrer dedans, les visiteurs non plus. Elle se retirait chaque nuit dans ce salon privé où elle faisait appel aux esprits pour qu'ils lui disent quels étaient les travaux à effectuer le lendemain. Donc les travaux étaient décidés au jour le jour. C'était une salle qui était dédiée donc uniquement au spiritisme. Et ensuite, elle allait se coucher tous les soirs dans une pièce différente pour être tranquille. Donc pendant toutes ces années, il y a eu énormément de choses qui ont été construites, et forcément des choses qui n'ont aucun sens. On a notamment des escaliers, comme je disais tout à l'heure, qui ne mènent nulle part, qui mènent directement au plafond, des portes qui s'ouvrent sur du vide. Énormément aussi d'équipements très novateurs pour l'époque. C'est une maison qui, même si elle a été construite à la fin du 19e et au début 20e, qui comporte par exemple des ascenseurs, qui a des équipements, des douches d'eau chaude, enfin des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'époque. Aujourd'hui, elle compte 160 pièces, ce qui est énorme, donc 40 chambres, 47 foyers de cheminée, enfin voilà, si on sort tous les chiffres, c'est très grand, quoi. On a énormément de pièces aussi qui sont entièrement fermées, c'est-à-dire qui n'ont pas de porte. Des pièces dans lesquelles on ne peut juste pas rentrer, ou voilà, comme je disais tout à l'heure, des portes qui s'ouvrent sur pas de pièces du tout. Donc évidemment, tout ça, ça nourrit énormément de légendes autour de cet endroit, parce que Sarah n'est pas la seule à dire qu'elle a vu des esprits. Et évidemment, quand on est dans une maison qui a une telle réputation et qu'on a des gens qui travaillent dessus 24 heures sur 24, ils peuvent avoir l'impression de rencontrer des esprits. Il y a notamment au troisième étage les couloirs de la maison qui sont encore aujourd'hui évités par les gens qui visitent la maison. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on peut visiter la maison Winchester, elle a été classée monument historique, et même les guides de la maison Winchester déconseillent aux visiteurs d'aller dans le couloir du troisième étage une fois la nuit tombée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu des bruits de pas qui traversaient, ou qui ont eu l'impression d'entendre leur prénom qui était prononcé par des voix un petit peu désarticulées. Donc c'est des endroits qui sont en général pas ouverts au public, mais récemment il y a eu un nouveau tour de la maison qui a été créé, et on peut dorénavant visiter certaines pièces comme ça qui ont la réputation d'être hantées. Puisqu'il y a beaucoup d'activités paranormales autour de la maison Winchester. C'est d'ailleurs une des manières dont ils vendent la maison Winchester en ligne. Ils disent qu'il y a beaucoup d'activités paranormales, que beaucoup de gens ont expérimenté des phénomènes paranormaux, notamment des orbes et des images qui ont été prises où on verrait des esprits.
Du coup, donc, l'endroit se visite. Il y a des visites qui sont organisées dans cette maison-là. Mais il y a combien de pièces aujourd'hui, du coup ?
Bah c'est comme je disais, il y en a énormément, donc 160 pièces, donc 40 chambres, et certaines pièces auxquelles tu n'as juste pas accès parce qu'il n'y a pas de porte, tout simplement, et des pièces très étranges où tu ne peux pas accéder. D'ailleurs, on en découvre encore.
Tu veux dire qu'il y a des espaces vides, quoi.
Il y a des espaces vides à l'intérieur de la maison.
Absolument inaccessibles dans la maison, que ce soit par des fenêtres ou des portes.
Exactement, c'est des endroits d'ailleurs qu'on découvre au fur et à mesure. En 2016, ils en ont encore trouvé une qui était cachée. Donc on en est là. Et d'ailleurs, la maison, évidemment, a une architecture hyper bizarre. Alors, il faut savoir que Sarah Winchester avait quelques marottes comme ça, où pour elle, le nombre 13 était très important. Donc tu le retrouves dans la manière dont sont conçues certaines scènes, qui ont 13 panneaux qui s'ouvrent, qui ont 13 angles à tel endroit d'une pièce, ou qui ont 13 chandeliers, tu vois. Il y a des salles de bal comme ça, où tu retrouves le nombre 13 un petit peu partout. Donc déjà, ça, c'est un petit peu étrange en soi, mais c'est surtout l'architecture globale de la maison qui est très très étrange, quoi, parce qu'elle s'étend sur 2 hectares avec vraiment aucun lien logique entre les pièces, puisqu'elle les plans auraient été créés par les esprits qui auraient soufflé ça à Sarah Winchester lors de ses séances de spiritisme.
Ah, d'accord, on est sur des plans architecturaux dictés par des esprits.
C'est ça, et justement, c'est pour ça que tu as un endroit aussi bizarre. Et aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que Sarah Winchester était vraiment hantée par des esprits et qu'il lui aurait vraiment soufflé ça? Ou est-ce que c'était juste une vieille personne folle avec beaucoup d'argent qui a finalement transformé sa folie en un édifice qui existe encore aujourd'hui et qui représente toute l'étendue de sa folie, quoi? Parce qu'elle était dans une profonde dépression suite à la mort de sa fille, puis avec la mort de son mari, où elle avait l'impression qu'il y avait une malédiction sur la famille, plus cette histoire des victimes de la carabine Winchester qui l'a entrée, c'est probablement quelque chose qui a dû lui traverser l'esprit à ce moment-là, quoi.
Et même, je dirais, question annexe, mais importante, comment fait-elle pour trouver le frigo? Parce que ça me semble impossible.
Bah écoute, c'était pas à elle de s'en occuper déjà à l'époque, puisque comme je dis, on est donc fin 19e, début 20e, hein, Sarah Winchester meurt en 1922, c'est une personne qui a des servants, qui a beaucoup de gens qui travaillent pour elle, donc tout ça, en fait elle n'a pas à s'en occuper finalement.
Ouais.
Elle dîne dans sa chambre, elle dîne à l'endroit où, dans la salle qui est dédiée à cet usage-là, et ensuite le soir elle change de chambre régulièrement après avoir fait sa séance de spiritisme. Est-ce que c'est un jeu de cache-cache avec les esprits ? Voilà, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. En tout cas, les observateurs de l'époque disent que, très clairement, la personne n'était pas hyper équilibrée mentalement. Il y avait un vrai problème.
Sans deck.
Une personne pas très équilibrée mentalement avec beaucoup d'argent, ça peut donner ça. Alors, tu as ceux qui disaient que c'était une personne folle et ceux qui croyaient vraiment à l'histoire. Hein, parce que, voilà, encore une fois, il y a des gens qui ont travaillé sur la maison qui pensent avoir vu des choses à l'époque et aujourd'hui... quand tu visites la maison, les guides touristiques qui te font visiter la maison Winchester te disent qu'il y a du paranormal dans cette maison.
Mmh.
Et d'ailleurs, ils jouent beaucoup là-dessus, puisqu'en tu peux la visiter de nuit parfois.
Ah oui.
En période d'Halloween, ils font des visites à la bougie, carrément, la nuit. Donc c'est un business, hein, évidemment, ça coûte entre 20 et 49 dollars la visite, donc c'est pas rien. Et donc voilà, t'as les visites à la bougie en période d'Halloween, et chaque vendredi 13, tu as aussi les visites à la lampe torche de la maison, ce qui doit être assez inquiétant. Donc voilà, on sent qu'aujourd'hui, les personnes qui tiennent la maison, donc c'est une organisation qui avait racheté la maison il y a quelques dizaines d'années dans le but de la restaurer, de la maintenir en état, parce que bah, c'est quand même, elle est classée monument historique, hein, en Californie. Mmh. Donc pour promouvoir ça, ils font forcément voilà, des petits trucs un petit peu effrayants. Donc si nos auditeurs passent du côté de San Jose en Californie, je pense que c'est une étape incontournable dans leur voyage en Californie.
Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Pour toi, c'est une affaire qui a quel niveau de mystère, du coup ?
Alors, qui a un très haut niveau de mystère, parce que cette histoire de malédiction, j'ai tendance à avoir un petit peu du mal à y croire. J'ai du mal à me dire que toutes les personnes qui ont été tuées par la carabine Winchester hantaient Sarah Winchester. Ça fait quand
ça
même beaucoup de monde.
Des centaines de milliers de personnes, non ? Ils n'ont pas armé des soldats, ils étaient pas... Il devait y avoir des centaines de milliers de personnes, non ?
Bah oui, ça fait énormément de monde, surtout que bah, la carabine Winchester a été inventée à un bon moment, on va dire, c'est-à-dire un moment où il y avait des guerres pas loin, quoi, donc elle a beaucoup été utilisée sur des champs de bataille, donc c'est forcément ça fait beaucoup de monde qui sont morts sous les balles de la carabine Winchester, quoi. Mmh. Donc ça, j'ai un petit peu du mal à y croire. Après, se dire que peut-être la... Moi, je suis plutôt partisan du côté, c'est la dépression où elle a cru voir des choses et en fait, la médium a un petit peu profité de sa crédulité pour lui mettre par-dessus une histoire paranormale qu'elle a cru parce qu'elle était à un moment où elle était vulnérable, cette femme, et que malheureusement, comme elle était très seule, eh bien, personne n'a jugé bon d'essayer de lui faire reprendre ses esprits. Parce que finalement, sa situation, elle a arrangé tout le monde, elle a arrangé la médium qui s'est fait de l'argent en lui faisant croire qu'il y avait une malédiction. Mmh. Elle a arrangé tous les gens qui ont travaillé dans la maison, à qui ça a donné quand même un salaire pendant 38 ans.
Ça a créé de l'emploi, tout simplement.
Bah c'est ça, pendant 38 ans, des travaux 24 heures sur 24 tous les jours, c'est tout ça, oui, voilà, ça générait effectivement de l'emploi. Donc je dis, bon, peut-être que la patronne est folle, elle croit qu'elle voit des esprits, mais en attendant, nous, bah, ça nous permet de vivre, quoi. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a ça. En fait, tout le monde avait intérêt... À laisser la situation en place, et même les gens qui ont repris depuis la maison ont tout intérêt à entretenir le mystère et à rajouter par-dessus cette couche de paranormal voilà, où ils disent qu'aujourd'hui encore il y aurait des esprits, alors que à la base les esprits ils hantaient juste Sarah Winchester, ils hantaient pas la maison en particulier, ils étaient accrochés à Sarah Winchester parce que c'était la femme de la famille Winchester. Donc c'est tout ce vernis qu'ils ont rajouté par-dessus de mystère, c'est pour attirer aussi plus de monde pour venir visiter la maison, faire la promotion de ces événements, de ces visites à la lampe torche et de ces visites à la bougie. Donc, en termes de mystère, moi j'aurais tendance à dire que au final, même si le nom officiel de la maison est la mystérieuse maison Winchester, c'est son nom officiel, c'est la Winchester Mystery House, j'aurais tendance à dire que finalement, ce n'est pas si mystérieux que ça, en tout cas, ce n'est pas paranormal. Ce qui reste une source d'étonnement, en revanche, c'est l'architecture de la maison, et je pense que rien que pour ça, ça vaut le détour, il faut la visiter, parce que c'est vraiment un édifice donc de 2 hectares qui est très très intéressant à visiter, je pense.
D'accord, ok. Tu penses qu'on peut passer au dossier suivant ?
Eh bien, je pense que l'on peut. Alors voilà, c'était la fameuse histoire sur la maison Winchester, une histoire qui vous a beaucoup plu, visiblement, puisque quand on a fait notre sondage sur les histoires que vous avez préférées, la maison Winchester est pas mal revenue. Et je ne sais pas si c'est c'est un petit peu le hasard finalement. On a beaucoup parlé de la maison Winchester ailleurs après cet épisode, puisque tu sais sans doute, Charles, qu'il y a eu un film.
Et oui, il y a eu un film, exactement, c'est ce que je veux dire, je ne l'ai pas vu. je dois bien avouer que je ne l'ai pas vu. Il me faisait moyennement envie, mais bon, après tout, je crois que j'ai peur de préférer ton histoire au film en fait.
je ne sais pas, ce serait gentil, écoute. Ah, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la vidéo qu'il y avait eu. Parce qu'en fait, la maison Winchester, donc il y a eu une campagne promotionnelle autour du film, et il y a notamment le Grand JD, qui est un youtubeur dont j'avais déjà parlé dans le Bureau des Mystères, qui a fait une vidéo où il est allé dans la maison Winchester, et qui est vraiment bien faite, donc je la conseille à nos auditeurs, elle est vraiment plutôt bien foutue. On voit notamment un truc dont je ne parlais pas dans mon histoire, qui est que Sarah Winchester, quand son esprit serait dans la pièce, elle dégagerait comme une odeur de rose.
Ah, ça, je vais dire autre chose.
Et c'est un peu étrange parce que le Grand JD, à un moment, quand il fait sa vidéo, il sent très nettement une odeur de rose dans une des chambres. Donc voilà, c'est ce truc qui rajoute encore un peu de mystère à cette histoire. Mais bon, passer à l'autre dossier.
Et oui, puisque sans transition,
en
été,
on va passer... Et oui. On a envie de prendre l'air,
mon cher. On a envie de prendre l'air, exactement. On a envie de prendre l'air.
Et une randonnée, c'est toujours une bonne idée. Enfin, plus ou moins. C'est plus ou moins une bonne idée, comme vous allez le voir avec notre prochain dossier qui a lui aussi été extrêmement demandé par nos chers auditeurs.
Expédition mortelle. Au cœur de la chaîne de l'Oural en Russie, 9 étudiants ont été retrouvés morts après qu'une expédition ait mal tourné. 9, mais au départ ils étaient 10. Ils étaient 10, ces étudiants, et ils étudiaient où ? À l'Institut Polytechnique de l'Oural. Donc oui, il y a un institut polytechnique en Russie, près de la chaîne de montagne. Et ils sont partis donc pour une grosse randonnée, ces étudiants. Et cette histoire, pour que je la replace et pour que vous vous rendiez bien compte de quoi je parle, cette histoire commence en janvier 1959. Ces 10 étudiants sont composés de Igor Dyatlov, donc qui va diriger l'expédition, Zinaïda, Lyudmila, Alexandre, Roustem, Georgi, Louri, Nikolai, un autre Alexandre et un autre Louri.
Ça fait pas mal de monde.
Donc ils sont 10. Et donc ils décident, pour le plaisir, de partir en expédition. Ils marchent en direction... d'Otterten, donc qui est un sommet en fait, qui est une montagne, qui est la fin de leur expédition, et voilà, l'expédition, on va dire, commence dans le dur le 27 juillet 1959, pas du tout juillet d'ailleurs, janvier, 27 janvier 1959, et directement le lendemain, le 28 janvier, un des deux Louris tombe malade et renonce immédiatement à poursuivre l'expédition. Il va rentrer au village le plus proche, hein, ça ne fait que un jour du coup qu'il marche. Donc il renonce à l'expédition, il rentre au village le plus proche et laisse ses 9 coéquipiers du coup continuer sans lui. Et bien ce Louri sera le seul survivant de cette expédition. Puisque dans la nuit du 1er au 2 février 1959, donc cela fait plus de 3 jours que nos 9 compagnons marchent. Donc ils marchent, pour vous replacer, en janvier, dans la chaîne de l'Oural, il fait entre moins 20 et moins 30 degrés. Donc on n'est absolument pas sur des températures agréables ou quoi que ce soit. Donc dans la nuit du 1er au 2 février 1959, le groupe s'installe sur la pente d'une montagne relativement proche de leur but, donc relativement proche d'Otterten. Donc ils s'y installent. Et chose un petit peu étrange, il y avait une forêt un kilomètre plus bas, mais non, ils s'installent, ils campent à cet endroit-là, sur la pente de la montagne, donc un coin relativement peu aisé pour s'installer, mais qui sera ensuite expliqué par le fait qu'ils voulaient sans doute s'entraîner
Ils voulaient sans doute s'entraîner à installer en fait leur matériel à flanc de montagne. Et donc Dyatlov, qui est le chef d'expédition, avait annoncé un potentiel retour du groupe le 12 février. Donc je vous rappelle que là, on est dans la nuit du 1er au 2 février. Ils sont partis le 27 janvier. Et il annonce un potentiel retour du groupe le 12 février, puisqu'il faut évidemment compter à la fois l'aller, mais aussi le retour, où peut-être ils pensaient aller moins vite, et du coup se laisser une marge assez grande. Et puis il avait annoncé que l'expédition ne pourrait durer plus longtemps. L'alerte de leur disparition sera donnée le 20 février, et ils seront retrouvés le 26 du même mois. L'enquêteur principal de cette affaire, Lev Ivanov, raconte notamment que leur dernier campement présente une tente et que cette tente est déchirée de l'intérieur, mais que aucun des corps des 9 étudiants qui ont continué leur route, hein, puisque Loury avait fait marche arrière immédiatement, aucun corps n'est présent autour de la tente.
Alors, c'est extrêmement... déjà, c'est un peu flippant, mais comment ça se fait qu'aucun corps n'était retrouvé dans la tente, étant donné que tu disais qu'on était sur des températures de moins 20, moins 30 degrés. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas au chaud, en fait?
Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas au chaud? Alors déjà, parce qu'il y avait sans doute absolument pas de chaud, mais surtout, pourquoi ne pas être autour du campement? Ça, on ne le sait pas encore. L'enquêteur pour l'instant n'a pas de réponse à ça, et d'ailleurs il n'y aura que des hypothèses, il n'y aura pas de réponse. Mais donc, comme je vous le disais, une forêt est présente environ 1 km plus bas, et à partir du campement, par contre, ce que trouve Ivanov, ce sont des traces de pas. Il explique qu'il y a des traces de pas qui correspondent à un groupe de 8 à 9 personnes qui se dirigent vers la forêt.
Donc ça pourrait être l'intégralité du groupe, en fait.
Exactement, ça peut être l'intégralité du groupe. À partir de ça, les deux premiers corps sont retrouvés à la lisière de la forêt. Et à la lisière de la forêt, chose importante, il y avait un pin, un arbre, un pin géant. Et les deux corps sont en sous-vêtements, pieds nus. On peut imaginer, enfin on peut à partir de là se figurer un début d'histoire, quelque chose les a réveillés, ils ont eu suffisamment peur pour ne pas s'habiller, mais en sachant que du coup on imagine une menace de mort vraiment imminente, puisque ils sont à peu près sûrs, ils sont tous expérimentés, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la totalité du groupe a déjà fait de nombreuses expéditions, donc c'est pas des rigolos, hein. Ils savent exactement ce qu'ils font, donc pour partir... En déchirant leur tente, si tant est que ce soit eux qui l'aient déchiré, en déchirant leur tente de l'intérieur et en prenant le parti de partir en sous-vêtements, pieds nus, quand il fait moins de 30 degrés en pleine nuit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a dû les effrayer. Autre élément étrange, des branches de l'arbre géant, donc du pin très grand qui est à la lisière de la forêt, sont retrouvées brisées, donc ce qui laisse à penser que au moins une des personnes a tenté de grimper à l'arbre pour échapper à quelque chose. Donc pour l'instant, on a trouvé 2 corps. 3 autres corps, dont celui du chef d'expédition, sont retrouvés entre le camp qu'ils avaient monté et la forêt. Donc parmi les noms que je vous donnais tout à l'heure, Rustem est retrouvé avec le crâne fracturé, sans pour autant qu'il n'y ait de traces de coups.
Donc, est-ce que ça pourrait être une chute, par exemple? Il aurait pu tomber sur une pierre et se fracturer le crâne?
Ça pourrait, mais à ce moment-là de l'année, il y a un minimum d'un mètre de neige. Donc là, en principe, s'il court, s'il arrive à se maintenir au-dessus de la neige, il y a peu de chances pour qu'en tombant, il se fracture le crâne sur une pierre. Surtout que la pierre produit un choc suffisamment précis pour qu'on voit l'endroit du choc. Là, il n'y a pas de trace de choc, mais il y a un crâne fracturé. Et donc, on est sur un total, pour l'instant, de 5 corps.
D'accord.
Ils étaient 9 au départ, on en a retrouvé 5 avec des blessures, donc pour l'instant encore difficile à expliquer. Il aura fallu 2 mois supplémentaires aux enquêteurs pour retrouver les 4 autres corps. Et les 4 autres corps étaient ensemble, ils étaient dans un ravin à quelques centaines de mètres de l'arbre à côté duquel ont été retrouvés les premiers corps. Dans les quatre personnes restantes qui ont été découvertes dans le ravin, Nikolai a également le crâne fracassé. Alexander a les côtes complètement éclatées. Et Ludmila aussi a elle aussi des côtes éclatées. Mais surtout, détail beaucoup plus perturbant, sa langue avait disparu.
Ok.
Et c'est pas fini.
Donc là, on est dans tout autre chose qu'une thèse de l'accident, quoi, parce que si la langue a disparu, ça peut être quasiment qu'humain, enfin, ça peut être qu'une personne qui l'a enlevé, quoi.
Ça paraît difficile, on peut, avec nos dents, il est évidemment possible, par accident, de se sectionner la langue, c'est possible, mais que la totalité de la langue ait disparu, c'est très compliqué.
Et puis un animal ne ferait pas ça. Un animal ne va pas récupérer juste la langue d'un corps.
Ça paraît en effet assez étrange. Mais c'est pas fini. Les 4 derniers que l'on a retrouvés dans le ravin, contrairement aux 5 premiers qui ont été retrouvés pieds nus, en sous-vêtements, les 4 derniers ont été retrouvés habillés. Avec les vêtements qui normalement appartenaient aux 5 premiers.
Ok, donc là, on est dans un tout autre niveau de mystère, là. Là, sur le papier, ça n'a aucun sens.
Non, ça n'a aucun sens parce que on se dit... moi, pour l'instant, je vois 2 hypothèses. Une fois arrivé à cette étape-là de l'histoire, je vois 2 hypothèses. Je vois, grosso modo, les 4 derniers ont entendu ou se sont échappés en premier au moment où il y a eu le problème au niveau de la tente, et ont pris les premières affaires qui leur tombaient sous la main, et du coup, ils ont pris les affaires des autres qui n'en avaient plus. Et à ce moment-là, ils ont réussi à s'échapper, et du coup, ont été retrouvés à d'autres endroits. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que du coup, ils ont consciemment pris les affaires des autres, et qu'ils se sont habillés avec. En sachant qu'ils se sont habillés, la manière dont ça a été retrouvé, c'était assez... Enfin, il n'y avait pas de logique. Il y en avait qui avaient un pantalon, il y en avait qui avaient un manteau de fourrure, il y en avait qui avaient juste des pulls enroulés autour des pieds.
Ah oui, d'accord, c'est très étrange quand même. C'est pas la manière dont tu t'habillerais, même si tu devais t'habiller en urgence.
Non.
Tu ne mettrais pas un pull à tes pieds, quoi.
Oui, non. Donc, la deuxième hypothèse, que jusque-là je vois dans cette histoire pour le cas de ces corps-là, c'est qu'ils ont enlevé les vêtements des 5 premiers. C'est-à-dire que les 5 premiers avaient peut-être réussi à s'habiller, sont morts, et les 4 derniers leur ont, du coup, ne pouvant peut-être pas remonter jusqu'à la tente, n'ayant peut-être pas retrouvé leurs autres vêtements, ont pris les vêtements de leurs 5 premiers amis.
Mais tu peux me rappeler comment sont morts ceux qui ont été retrouvés au pied de l'arbre? Il y en a un qui avait le crâne enfoncé.
Voilà, il avait le crâne fracturé, mais pour autant, ce n'était pas une blessure mortelle. C'est-à-dire qu'il avait potentiellement le crâne qui était fissuré, sans pour autant que ce soit létal au moment où il a reçu le choc.
Puisque, comme plus je l'ai dit, il avait pas froid, c'est ça?
Exactement. L'enquête conclut pour l'instant que les 5 premiers sont morts d'hypothermie.
D'accord. Et donc les 4 autres, c'est donc un qui avait le crâne lui aussi éclaté, celle qui n'avait plus de langue, donc on soupçonne, j'imagine, une hémorragie suite à ça, ou c'est pas ça qui l'a tué?
Alors ça, on le sait pas. On le sait pas du tout. Je sais pas si c'est mortel, mais en tous les cas, il y a eu de nombreux chocs. L'enquêteur Lev Ivanov a mentionné un peu pour donner une petite idée. Il a dit c'est comme si on avait mis 4 personnes dans un accident de voiture. C'est-à-dire que des fois, il y a des chocs, il y a des membres, des parties du corps qui sont brisées, sans pour autant que le choc soit clairement identifiable. Ça peut être la ceinture de sécurité à grande vitesse qui brise des côtes. Enfin, il peut y avoir quantité de choses qui font que les corps se sont retrouvés dans cet état-là.
D'accord. Et quelles sont les théories du coup sur ce qui a pu se passer sur ça, parce que j'imagine qu'il y a dû y en avoir pas mal qui ont dû être échafaudées pour essayer d'expliquer la situation.
Il y en a eu pas mal, notamment une qui me paraît à la base, enfin qui me paraissait à la base être la plus probable, c'est tout simplement la théorie d'une avalanche. Ils sont expérimentés, c'est pas des rigolos, mais à ce moment-là, enfin à ce moment de l'année, le passage qu'ils ont traversé est catégorisé comme étant le plus dur possible pour des randonneurs en expédition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau au-delà, en termes sur l'échelle des difficultés, il n'y a pas de niveau au-delà que ce qu'ils ont traversé là. Donc on peut supposer que, en plus c'est un moment de l'année tout simplement où il neige, où il y a beaucoup de neige fraîche, on peut supposer qu'une avalanche, un bruit d'avalanche les a réveillés, et qu'ils n'ont même pas pris la peine d'ouvrir les tentes, qu'ils les ont déchirées, qu'ils sont partis le plus vite possible, mais à ce moment-là, on suppose que du coup ça ne les a pas tous emportés de la même manière, puisqu'il y aurait deux groupes qui se seraient constitués, et que le premier groupe serait mort, et que le deuxième groupe serait après revenu chercher les vêtements.
Mais ça explique pas, en tout cas, enfin, ça expliquerait pas mal de choses, mais ça expliquerait pas notamment pourquoi il y en avait une qui avait plus de langue, par exemple.
Ça semble assez difficile, en effet.
C'est pas une avalanche qui va faire ça.
Enfin, non, pour toutes les blessures, l'avalanche est l'hypothèse qui revient le plus et qui est de loin la plus probable, hein, puisqu'une avalanche, enfin, littéralement, peut être encore beaucoup plus violente qu'un accident de voiture. Par contre, l'avalanche n'explique pas une chose, c'est que tous les vêtements portés par le deuxième groupe, donc de quatre dans le ravin, qui les avait pris au premier groupe, sont tous radioactifs. Ils ont
Ils ont fait des tests sur ce qu'il y avait.
Lev Ivanov était venu avec un compteur Geiger. Et il raconte qu'au moment où il a approché le compteur Geiger des vêtements, il s'est complètement affolé. Le compteur Geiger s'est complètement affolé. Tous les vêtements présentaient de fortes traces de radioactivité.
Mais toutes ces informations-là, on les a comment en fait ? Qui c'est qui a consigné tout ça ?
Alors, pour la première partie, le groupe tenait un carnet de bord.
Donc jusqu'à l'accident, voilà.
Jusqu'à l'accident, on sait exactement à quelle date ils étaient, enfin quel lieu, voilà, on sait exactement. Pour la deuxième partie, il s'agit de l'enquête, tout simplement.
D'accord, donc c'est consigné quelque part que les vêtements étaient radioactifs.
Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est
parce qu'on lit souvent des histoires comme ça qui sont un petit peu exagérées, parce que j'avais entendu parler de cette affaire une fois où il disait qu'il y avait des changements de couleur sur la peau, etc. Et il paraîtrait que c'était en fait une exagération de l'histoire vraie, ça.
Alors ça, c'est pas consigné dans l'enquête, ce sont des proches des victimes qui étaient présentes du coup aux funérailles et qui ont vu les corps et qui en fait ont trouvé très étrange que les corps soient très bronzés, les corps de toutes les victimes étaient très bronzés, voire pour certains carrément orange, et que leurs cheveux en revanche soient devenus tout gris.
Donc ça, ce sont des proches qui...
C'est ça, qui se sont étonnés au moment des funérailles de voir la couleur de la peau qui avait visiblement beaucoup changé et la couleur des cheveux.
D'accord. Écoute, t'as d'autres informations sur ta affaire ? Parce que c'est hyper intéressant, je pense que ça m'intéressait pas mal de monde.
J'en ai encore beaucoup.
Eh bien, je t'en prie, déroulé, et si t'as des livres à conseiller aussi, après, pour ceux qui voudront en savoir plus, tu pourras aussi lâcher des noms.
Autre fait un peu perturbant, il y a des restes de feu qui ont été retrouvés en bas du campement. Donc un feu qui a été fait après ce qui s'est passé au niveau de la tente. Ce qui indique donc qu'ils ne seraient pas tous morts au même moment, soit ce sont d'autres personnes, mais qui à ce moment-là n'ont pas signalé avoir vu des corps ou avoir vu la tente. Soit c'est le deuxième groupe de survivants qui du coup aurait fait un feu de camp, ce qui suppose également qu'ils étaient du coup en pleine possession de leurs moyens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui les a complètement affolés et qui les a fait sortir de la tente et qui les a rendus fous. C'est-à-dire que là, on est sur une explication peut-être un peu plus concrète, et c'est pas une psychose générale, c'est pas, je sais pas, un test de drogue, comme on a pu le voir avec Pan Saint-Esprit, ce n'est pas l'armée russe qui teste des drogues dans l'Oural ou quoi que ce soit, ils étaient tous en pleine possession de leurs moyens. En revanche, l'hypothermie peut faire aux gens des choses assez stupides, notamment leur donner l'impression qu'ils ont très chaud. Une fois en hypothermie, le corps peut avoir l'impression d'être, d'être en état de chaleur excessive, et du coup, ce qui, d'un côté, pourrait expliquer le fait qu'ils se sont enlevés les vêtements, mais de l'autre, est assez peu probable, puisque ils étaient tous expérimentés et étaient tous conscients de ce qui se passait en cas d'hypothermie. Donc ça semble assez peu probable que l'hypothermie leur ait fait perdre la tête au point que le premier groupe enlève leurs vêtements. Donc on suppose qu'on leur a enlevé leurs vêtements. Ou alors qu'ils n'en portaient pas à la base.
Mais tout ça explique toujours pas l'histoire de la langue qui a disparu et des traces radioactives sur les vêtements.
Toujours pas. En revanche, il a été révélé au bout d'un moment que les officiels soviétiques ont demandé à Lev Ivanov, l'enquêteur, de clore l'enquête, alors que il venait de découvrir que des sphères volantes lumineuses avaient été aperçues dans cette zone en février et en mars 1959.
Donc on serait potentiellement sur des prototypes de la guerre froide, en fait.
Des prototypes ou autre chose, mais en tous les cas... Lev Ivanov s'est exprimé auprès du journal kazakh Leninsky Put. C'est une interview qui a été déterrée par le Times, et il disait, je cite, « Je soupçonnais à l'époque que ces sphères volantes étaient liées à la mort de ces gens, et j'en suis presque sûr aujourd'hui. D'autant plus qu'un autre groupe d'étudiants qui campait à 50 km de là, dans un endroit moins montagneux et beaucoup moins dangereux, hein. Il faisait juste du campement. Un autre groupe d'étudiants qui campait environ 50 km a raconté également avoir aperçu les fameuses sphères lumineuses. Et donc dans un témoignage, l'un d'entre eux a dit qu'il avait vu, et là encore je cite, « un objet circulaire brillant volé au-dessus d'un village » allant du sud-ouest vers le nord-est, le disque lumineux faisait quasiment la taille d'une pleine lune. Il était de couleur blanche-bleu, entouré d'un halo bleu. Le halo émettait des flashs aveuglants, comme un orage dans la nuit. Quand cet objet volant disparut à l'horizon, le ciel s'illumina à cet endroit pendant encore quelques minutes. » Donc là, on est en 1959... C'est difficile de supposer que l'ex-URSS possède des engins capables de faire ça.
Ça me semblerait très étrange, effectivement. Ou alors ils n'étaient pas au point. Et c'est pour ça qu'ils n'en auraient pas parlé publiquement, officiellement. Peut-être que... Alors, je vais peut-être échafauder une théorie qui existe déjà, je suppose. Peut-être que ça pourrait être un test de nouveaux véhicules volants qui ne fonctionnait pas bien, et une des conséquences du premier test aurait été la mort de ces gens qui seraient passés peut-être trop près de l'appareil, et ça pourrait être une explication. En tout cas, j'ai du mal à croire que ça puisse être des extraterrestres, par exemple, puisque là, sur ces témoignages-là, on a clairement affaire à la définition pure et simple de l'OVNI, hein, l'objet volant non identifié. Donc j'aurais du mal à croire que ça puisse être d'origine extraterrestre, quoique j'imagine que certaines personnes doivent le penser, mais c'est, oui, pourquoi pas un prototype de l'armée russe qui n'a pas marché, tout simplement.
C'est probable, c'est disons une hypothèse qui peut s'entendre. La principale hypothèse rejoint ce que tu dis, hein, c'est vrai qu'ils se seraient retrouvés par inadvertance dans une zone d'essai. Donc soit d'armes chimiques, soit d'armes à neutrons. Et un nouveau type d'arme qui, en fait, au moment d'être utilisée, aurait provoqué des halos lumineux qui, avec l'atmosphère et le ciel tel qu'il est composé autour de ces montagnes, auraient effectué des reflets. Il y aurait eu des reflets qui se serait vu à plusieurs dizaines de kilomètres au moment de ce test. Et malencontreusement, les neuf étudiants, du coup, auraient peut-être aussi été victimes, et là, on peut aussi supposer quelque chose en deux temps, que l'arme ait déclenché une avalanche, qui aurait eu soit un test, soit plusieurs. Le test aurait déclenché une avalanche, et du coup, l'avalanche est responsable des différentes liaisons... je vais y arriver, des différentes lésions sur leur corps et du fait qu'ils se soient retrouvés dispersés, mais la couleur orange, les cheveux gris et d'autres choses seraient peut-être liées à l'utilisation de ce type d'arme.
Mais toujours pas cette histoire de langue, j'y reviens.
Mais oui, non, l'histoire de la langue,
aucune
c'est...
aucune théorie qui explique ça, quoi. Alors, et pourtant, c'est bien consigné dans les dossiers... Enfin, ça existe, quoi. On le sait, ça, c'est avéré, il n'y a pas de... D'accord. Donc, c'est surtout ce point-là, en fait, qui est très étrange.
Ouais.
Parce que moi, j'y crois volontiers à cette histoire de test de l'armée. Mmh. C'est vrai qu'on sait que dans la plupart des pays, souvent, l'armée fait des tests dans des zones reculées, dans des zones difficiles d'accès. L'armée française, par exemple, fait des exercices dans des zones un petit peu difficiles. Je sais que j'avais visité la pointe du Raz en Bretagne, par exemple. Je sais que c'est une zone où les militaires font pas des tests bactériologiques, non, mais ils s'entraînent, tu vois. Mmh. Donc c'est vrai que comme là, c'est un endroit extrêmement difficile, même pour les meilleurs randonneurs, tu peux te dire que ça peut être une zone assez privilégiée par l'armée pour effectuer des tests, des entraînements, ce genre de choses, quoi.
Exactement.
Donc c'est tout à fait possible.
Exactement, d'autant plus, et je conclurai là-dessus, que l'accès à cette région, après l'accident, a été interdit pendant 3 ans et n'a été rouverte qu'en 1962.
Donc ça renforce encore plus l'hypothèse de test de l'armée à cet endroit-là.
Exactement, puisque le gouvernement aurait, peut-être pour des raisons de sécurité, essayé aussi d'étouffer l'affaire, c'est-à-dire d'empêcher les personnes de faire d'autres recherches à ce niveau-là, et ne l'aurait rouverte du coup qu'en 1962. Donc une affaire qui possède un niveau de mystère que là j'ai envie de qualifier, c'est le niveau Laurence Boccolini du mystère.
Un niveau extrêmement élevé.
Un niveau extrêmement élevé.
Un niveau zone paranormale du mystère, effectivement.
C'est ça. Oui, puisque Laurence Boccolini était présentatrice d'une émission sur une chaîne de la TNT où elle présentait des phénomènes paranormaux. Là, je pense qu'on est au niveau Laurence Boccolini du mystère.
Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour conseiller aux auditeurs. Je suis pas sûr que ce soit très très gars, parce que ça doit pas être la chaîne officielle de TF1 ou de NT1 ou je ne sais quelle chaîne. Mais sur YouTube, vous pouvez trouver des vieux numéros de zones paranormales qui circulent. Et je vous les conseille très fortement. C'est très drôle. Notamment celui sur les fantômes, les esprits et les possessions, qui est vachement sympa. Donc voilà. Du coup, est-ce qu'on classe cette affaire finalement ?
Écoute, je pense que on n'aura pas les moyens d'en savoir plus. Lev Ivanov s'est un peu vu retirer l'enquête par les services russes. Aujourd'hui, il me semble en plus que le principal enquêteur est décédé et que l'affaire est restée en suspens et ne verra, à mon avis, pas d'autres rebondissements.
Et c'est sûr que c'est pas nous, depuis notre petit bureau, qui allons malheureusement pouvoir en savoir
Hélas.
Plus sur cette affaire.
Ouais.
Du coup, passons à une autre.
Vous avez froid, n'est-ce pas ? Ça vous a rafraîchi, cette petite histoire. Hein. Passer quelques jours comme ça, dans un glacier, être retrouvé, démembré, ça fait envie, hein, en été. On a envie de partir dans les Alpes, après. On a envie de se balader dans la mer de glace, on a envie de... Hein. Ah, c'est la fameuse histoire, le fameux Dyatlov. Histoire, peut-être une des histoires les plus mystérieuses. C'est peut-être pour ça qu'elle est vachement revenue dans les souhaits des auditeurs. Elle est très mystérieuse, il y a beaucoup de choses inexpliquées. Ça mélange plusieurs choses aussi. Il y a plusieurs explications, on peut trouver une explication fantastique. Est-ce que ce serait par exemple le Yeti, un Yeti radioactif, qui aurait ravagé ce groupe de jeunes russes?
Ou alors, ce que j'aime beaucoup avec cette histoire, c'est que c'est une histoire qui reste totalement mystérieuse. C'est une des rares histoires qu'on ait fait dans le bureau des mystères où vraiment c'est impossible à classer. Et je crois que c'est vraiment ça qui est bien avec Dyatlov.
Mmh, ouais, moi je suis d'accord. Et sans transition, toujours, les nuits d'été sont propices au jeu entre amis. Vous le savez, vous l'avez sans doute déjà fait, vous l'avez peut-être même fait cet été. Et bah, si vous l'avez fait, vous l'avez peut-être fait sans vous poser la question des conséquences qui pouvaient arriver. Or là, action ou vérité, je n'ai jamais, tout ça c'est démodé. Pour impressionner vos amis, il va falloir essayer cet été le jeu de minuit.
En gros, c'est un jeu un petit peu à la Bloody Mary pour se faire peur, si tu veux. Le jeu de minuit, on le présente la plupart du temps, quand tu lis des articles de Creepypasta sur le jeu de minuit, on le présente comme un vieux rituel païen qui aurait été autrefois utilisé comme punition. En fait, c'est fait pour faire peur, à la base, mais il y a une chance de mourir en participant au jeu de minuit. C'est pourquoi la première règle du jeu de minuit, c'est ne jouez pas au jeu de minuit.
Ah, c'est exact. D'accord. C'est comme le Fight Club.
Exactement.
La première règle, c'est on ne parle pas du Fight Club.
Écoute, j'ai les règles devant les yeux. Au tout début, il y a marqué, il est fortement recommandé de ouvrir les caps lock, ne jamais jouer au jeu de minuit. Fermer les caps lock. Donc c'est voilà, c'est marqué en majuscule. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous donne quand même les instructions du jeu. Le jeu doit impérativement commencer à minuit, sinon ça fonctionnera pas. Et pour le faire, il vous faudra une bougie, une goutte de votre propre sang, un bout de papier, des allumettes ou un briquet, comme vous voulez, et du sel. Il faut y jouer dans une maison ou un appartement. Enfin, l'important, c'est qu'il y ait une porte d'entrée en bois. Voilà. Jusque-là, normalement, à peu près tout le monde a ce genre de choses.
Ouais.
Ensuite, il faut écrire son nom en entier sur un bout de papier, y mettre une goutte de sang, bien étaler sa goutte de sang, et ensuite éteindre toutes les lumières de la maison. Ensuite, on va devant la porte d'entrée, on place le papier devant la porte, et là, on prend la bougie, on l'allume, on la place sur le papier, et on frappe 22 fois à la porte. Et ce qui est important, c'est que le dernier coup de ces 22 coups frappe à minuit pile, quand il y a le 12e
coup. Ah d'accord, ok. Ah donc, il faut avoir une montre, et l'idéal, c'est à 30 secondes de minuit, tu commences à taper.
Voilà.
Et d'accord. Ça va faire chier les voisins.
Un petit peu, mais voilà, c'est pour se montrer qu'on a du courage, comme tu vas le voir par la suite. Une fois qu'on a fait ces 22 coups, on ouvre la porte, on souffle la bougie, et on referme la porte. Là, on est tout seul dans son appartement, où il fait noir, avec une bougie éteinte. Et on peut se dire, bravo, parce qu'on vient de faire entrer chez nous l'homme de minuit.
Ah, toujours à l'heure.
Et voilà. Il faut rallumer immédiatement la bougie, et c'est à partir du moment où on rallume la bougie que commence le jeu. Maintenant, il va falloir traverser la maison dans le noir, la bougie à la main, en évitant l'homme de minuit à tout prix, jusqu'à 3h33 du matin précisément. Si la bougie s'éteint à un moment, c'est que l'homme de minuit n'est pas loin.
Waouh, alors il faut éviter de prendre un chauffe-plat déjà. Il faut prendre une vraie grande
bougie. Une vraie bougie, hein, voilà, c'est important, un chandelier si vous avez, je sais pas. Voilà, il faut rallumer la bougie très vite si votre bougie s'éteint en moins de 10 secondes. Et si vous n'y arrivez pas en moins de 10 secondes, c'est pour ça que je vous conseille vivement de prendre un briquet et pas des allumettes, il faut former immédiatement un cercle autour de vous avec le sel. C'est ce qui va vous protéger. Si vous avez raté ces deux étapes-là, l'homme de minuit va vous attraper et vous faire avoir une hallucination qui est basée sur votre plus grande peur. Et cette hallucination durera jusqu'à 3h33. Donc si tu te fais attraper à minuit, tu as l'hallucination de la chose qui te fait le plus peur au monde pendant 3h30.
Youf.
Mais si tu as réussi à rallumer ta bougie, parce que tu es doué, tu peux continuer. Et si tu as réussi à tracer ton cercle de sel, tu peux rester dedans jusqu'à 3h33 et il ne t'attrapera pas. Donc ça, c'est plutôt tant mieux. Mais il faut continuer.
Ah, donc, dans tous les cas, si tu fais ton cercle de sel, déjà, t'es immunisé.
Oui, non, c'est ça qui te protège. Parce que
ah, ok, donc t'as même pas besoin d'allumer si tu fais un... Il faut que ce soit épais, il faut que ce soit du sel fin, du sel de Guérande, il y a un truc plus efficace que l'autre.
Écoute, c'est vrai que ce n'est pas précisé, mais...
Du gros sel, peut-être.
Je pense que du sel, globalement, n'importe quel sel peut faire l'affaire. Okay. Voilà.
D'accord.
Moi, je vous recommande, par fierté française, un petit peu de sel de Guérande, mais bon, ne mettez pas de la fleur de sel, c'est trop cher. Enfin, voilà. Gardez-le pour la cuisine. Donc, l'idée, quand même, c'est d'essayer d'échapper à l'homme de minuit. Donc, c'est pas de tricher, de faire directement son cercle et de rester dedans jusqu'à 3h33. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt rouge.
Ouais, bah ouais.
D'ailleurs, il y a plusieurs règles. Ils disent d'ailleurs, à l'attention des petits malins, rester au même endroit durant tout le jeu n'est pas conseillé. C'est de se planquer, par exemple, parce que l'homme de minuit finira par vous trouver. C'est pourquoi il est extrêmement recommandé de marcher constamment pendant le jeu. et de ne tracer son cercle de sel qu'en ultime recours. Les dernières règles sont de ne jamais allumer les lumières durant le jeu de minuit. De ne jamais utiliser de lampe torche durant le jeu de minuit. De ne jamais aller au lit et dormir pendant le jeu de minuit. De ne jamais utiliser le sang de quelqu'un d'autre sur un papier avec votre nom. De ne jamais utiliser un briquet à la place de la bougie, parce que ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit une bougie allumée. Et surtout, surtout, ne jamais provoquer l'homme de minuit en aucune manière.
Comment on fait pour provoquer l'homme de minuit?
Je pense que c'est essayer d'aller à sa rencontre et lui dire qu'on n'a pas peur, par exemple. Ça, c'est plutôt une mauvaise idée.
Ah, on peut aller le voir, si on peut se croiser.
Bah, comme quand ta bougie s'éteint, tu sais qu'il n'est pas loin de toi.
Ouais.
Tu peux essayer d'aller à sa rencontre, c'est possible. Et tu ne seras sans doute pas surpris d'apprendre qu'il y a plusieurs témoignages, forcément, sur Reddit, de gens qui...
Sur Reddit.
Sur le No Sleep, qui est un excellent thread Reddit. Où il y a des témoignages de personnes qui ont joué au jeu de minuit.
Ah.
Et je vais te lire des extraits de celui de Jake, qui a posté ce message il y a de cela déjà 3 ans. Et ça commence comme ça. Je ne crois pas spécialement au surnaturel. Il m'arrive parfois de tester des petites choses pour m'amuser, et jusqu'au week-end dernier, je n'avais absolument aucun respect pour ce genre de croyance.
Aucun respect. Le respect a disparu.
Zéro respect. Je suis tombé sur une creepypasta qui s'appelle le jeu de minuit. C'était complètement le genre de choses que j'avais envie d'essayer, et c'est ce qu'on a fait avec mon ami Ryan. Alors, je te passe un petit peu parce que ce témoignage est très long, et ils y jouent, hein, ils mettent le sang sur le papier, ils sortent, ils tapent 22 fois à la porte, ils re-rentrent. Sauf qu'ils sont un peu déçus parce qu'il se passe rien pendant une heure. Mais à minuit 58, leur bougie s'éteignent brusquement. Et là, je te dis la suite du témoignage. Je l'ai vite rallumé en moins de 5 secondes. J'ai sorti un truc comme « putain, c'était moi une ». Ryan m'a regardé bizarrement et m'a dit de répéter. Alors j'ai redit « putain, c'était moins une ». Il avait l'air encore plus effrayé. Il m'a dit « non, ça j'ai entendu, ce que je veux savoir c'est ce que t'as murmuré après ». Et je vous jure que je n'ai absolument rien dit d'autre. Donc voilà, passé ce petit moment étrange, la soirée continue. Ils essayent d'échapper puisque leurs bougies s'éteignent de temps en temps. Et à 1h40, son ami Ryan panique. Il a l'impression d'être suivi, il commence à croire réellement à l'histoire de l'homme de minuit, parce que jusque-là, il s'y croyait pas vraiment, hein. Pour eux, c'était juste une creepypasta sur Internet. Alors, son ami Ryan lui dit qu'il veut tracer le cercle de sel au plus vite, comme ça, on en finit avec cette histoire, quoi. Mais le souci, c'est qu'à ce moment-là, ils sont dans la cave, et qu'ils ont oublié le sel 2 étages plus haut dans la chambre.
Pas malin.
Alors, pas très malin. Et Jack, qui n'a pas trop peur à ce stade, hein, puisqu'il est habitué aux histoires d'horreur, décide d'y aller. Et c'est la suite de son témoignage qui m'a un petit peu mis pas très bien. À l'instant où j'attrape un paquet de sel, la chambre devient froide. De toutes les pièces de cette putain de maison, cette chambre est censée être la plus chaude. Mais là, j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Je me sens observé. Je me retourne et là, je vois une silhouette debout sur le lit. Je peux vous jurer que sa tête a bougé, qu'elle me regardait. J'ai couru le plus vite que j'ai pu vers la cave et j'ai vite tracé le cercle. On a éteint nos bougies et on a prié pour que la créature ne nous trouve pas. Alors Jake assure ensuite que lui et Ryan sont restés blottis dans le cercle jusqu'à 3h40 du matin. Ils ont attendu 7 minutes de plus, ils avaient vraiment trop peur pour sortir.
C'est les 7 minutes de sécurité.
Et l'expérience les a complètement traumatisés. Jake dit qu'il a fait des cauchemars pendant plusieurs nuits après ça. Et il conseille fortement aux gens qui ont lu son histoire de ne jamais jouer au jeu de minuit.
Ah oui, bah oui.
Donc essayez
bah
si
ouais,
ça vous tente. Mais
bah,
pensez à Jack.
Ouais, ouais. Mais j'allais te dire, en effet, là, dans la maison dans laquelle je suis en ce moment, je le ferai pas. Très clairement, je le ferai pas. J'aurais beaucoup trop peur. Mais dans l'appartement parisien que j'avais il y a quelques temps, qui faisait 15 mètres carrés, bah.
Bah là, c'est compliqué de lui échapper.
C'est compliqué de lui échapper, ouais. Mais ceci dit, du coup, tu le vois forcément arriver, tu vois. C'est
alors, on devrait peut-être
rajouter
une règle au jeu de minuit à laquelle ils n'ont pas pensé. C'est
ne un
jamais.
De mètres carrés.
Ne jamais jouer au jeu de minuit si vous habitez dans un studio.
Ou pas d'ailleurs, parce que si tu traces ton cercle, bah, des fois, tu sais, tu traces ton cercle, enfin, tu te balades. Même, tu peux tracer un cercle qui fait littéralement la taille de ton appartement.
C'est vrai. Si t'habites dans une toute petite chambre de bonne parisienne,
bah ouais,
c'est illégal de 8 mètres carrés.
Ouais, voilà.
Bah, du coup, en fait, vous allez juste passer une petite soirée pyjama avec l'homme de minuit, c'est-à-dire que vous allez être dans votre cercle. Lui pourra pas rentrer dedans, mais il sera à 2 cm de vous.
Et puis ça va.
Et tout se passera très bien.
Exactement. J'avais 2-3 infos d'ailleurs sur l'homme de minuit parce que ça a pas mal marché. Enfin, c'est une histoire qui était quand même pas mal répandue sur le net. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il y a un mec sur Reddit qui a eu une super idée. Il a dit vous invoquez l'homme de minuit et ensuite vous allez directement vous courir dans la salle de bain pour invoquer Bloody Mary le même soir. Bah, et vous voyez qui gagne entre les deux.
Pas mal.
Tu croises fortement les doigts pour pas mourir au passage. Pour que ça tourne pas en qui sait qui va te tuer le premier. Et en fait.
Oui, c'est parce que si les deux te prennent pour une proie, là t'as 2 fois plus de chances d'y passer.
C'est ça. Et c'est d'ailleurs une petite anecdote ciné que j'ai vue en cherchant des infos sur le Midnight Man. Il y a un film qui est inspiré de cette creepypasta qui est sorti en 2013 en Irlande. Il s'appelle The Midnight Man. Et il a eu droit à un remake américain qui va sortir bientôt avec 2 guests de qualité à l'intérieur, Robert Englund qui joue Freddy.
Ouh, ben oui, évidemment.
Et Lynn Fay qui joue Elise dans Insidious.
Ouais.
Alors
ouais.
Ce sera sûrement de l'ordre du caméo pour rendre le film hein, parce que c'est encore un délire de jeunes qui font des conneries avec les esprits, donc ils jouent au jeu de minuit et qui se font tous trucider.
Tous les mauvais films d'horreur ces derniers temps sont des remakes de Ouija.
Oui, non mais voilà, on est un petit peu dans ce délire-là avec des acteurs inconnus et tout, mais je vais quand même le regarder par curiosité. Après, c'est réalisé par le réalisateur de Cabin Fever, mais pas l'original, le remake.
Ah, okay. D'accord.
Donc une personne habituée des remakes visiblement. Donc voilà, je sais pas quand ça sort exactement, mais la bande-annonce est dispo sur YouTube, elle tourne partout, donc si vous voulez aller regarder la bande-annonce de Midnight Man, c'est possible. Ce best-of du Bureau des Mystères est désormais terminé, merci à vous de l'avoir écouté.
Vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, sur notre Twitter, @BDMlePodcast, sur notre page Facebook Charles et Mathias, et sur toutes les applis de podcast possibles et imaginables de Apple Podcast et même Google Podcast, puisque Google a enfin sorti son appli podcast pour Android. Donc vous pouvez aussi nous écouter là-dessus, j'ai fait le test, on se retrouve assez facilement.
Ah, génial. Puis aussi, on peut aussi nous retrouver évidemment sur Riviera Ferraille, puisque le Bureau des Mystères est un podcast Riviera Ferraille. Et donc, vous pouvez trouver sur le site déjà tous nos anciens épisodes, mais également beaucoup de liens avec des sources pour creuser un petit peu plus les histoires qu'on a racontées tout au long de cette saison. Nous, on vous retrouve bientôt avec un nouveau best-of. Et d'ici là, passez de bonnes vacances.